Eh bien, chers amis, alors nous allons commencer aujourd'hui l'étude de ce sujet, la liberté en Christ. Et je voudrais tout de suite dire une chose qui est bonne à savoir en commençant, c'est que la liberté en Christ conditionne de façon totale le succès de la vie chrétienne. Ce n'est donc pas quelque chose d'accessoire, si je puis dire, mais c'est véritablement quelque chose qui touche à la réalité de la vie en Christ, de la vie selon l'Esprit. Nous sommes donc tout à fait dans le thème général qui a été retenu pour cette convention. Je vais tout de suite lire des textes. Nous allons prendre dans Jean chapitre 8 au verset 30. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je répète cette dernière phrase. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Nous tournerons nos pages et nous irons maintenant à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 2. Chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour la bonne compréhension de ce verset, si vous voulez, substituons au terme « loi » le terme « puissance » ou « autorité » ou « puissance », mettons « puissance ». En effet, la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la puissance du péché et de la mort. Et puis, dans l'Épître aux Galates, nous aurons d'autres textes, bien sûr, au cours de notre étude. Galates chapitre 5, verset 1er, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et puis dans le même chapitre, au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Je voudrais répéter cela, frère, vous avez été appelés à la liberté. Tout chrétien, tout enfant de Dieu a donc été appelé à la liberté. Bon, ceci étant, nous allons venir bien sûr à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Mais auparavant, je voudrais remarquer ceci, établir cette remarque, c'est que la société humaine, sur toute la surface du globe aujourd'hui, d'une façon unanime par conséquent, aspire à ce qu'elle appelle la liberté. On en parle tellement de liberté aujourd'hui, n'est-ce pas, que vraiment le sujet est bien d'actualité. Et il faut que tout sujet biblique soit vu, connu, étudié dans le cadre de l'actualité. Depuis Karl Marx, l'homme est convié à se voir en état, je vais employer le mot qui lui était familier à cet auteur, en état d'aliénation. Il ne s'agit pas d'aliénation mentale, bien entendu, en état d'aliénation par le travail et par le fait de l'autorité établie. C'est peut-être très bref, très succinct ce que je dis là de Karl Marx, mais voilà, n'est-ce pas, une chose qui était, qui s'imposait dans sa philosophie, l'homme est en état d'aliénation. Et nous voyons dans la société naître toutes sortes de conflits et de contestations qui convergent vers la recherche d'une plus grande liberté. Et cette recherche, disons-le tout de suite, est tout simplement la poursuite du vent, la poursuite d'une chimère. Alors, qu'entend-on par liberté? Que peut-on entendre par liberté? Eh bien, très simplement, nous allons le dire de trois manières. Être libre, c'est pouvoir exercer sa volonté au fil du temps. Pas seulement à un moment déterminé, mais en tout temps. Pouvoir exercer sa volonté. Nous pouvons dire aussi que être libre, c'est pouvoir décider de ses actions et de son mode de vie sans contrainte extérieure. Un dictionnaire pourrait employer cette expression « contrainte extérieure ». Je fais remarquer ici qu'il n'est jamais question, dans le dictionnaire ou dans des ouvrages profanes, il n'est jamais question de contrainte intérieure. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui va apparaître dans la parole de Dieu. Donc, pouvoir décider de ses actions et de son mode de vie sans aucune contrainte venant de l'extérieur. Et puis enfin, ne pas être obligé à quelque chose contre son gré. C'est très simple, vous voyez, voilà ce qu'on entend par liberté. Alors, ceci étant, posons-nous cette question maintenant. Que dit la Bible qui est la parole de Dieu? Eh bien, la Bible, elle fait ce que elle fait toujours, elle prend la question qui préoccupe le monde, préoccupe les hommes en général, et elle la retourne sur l'homme lui-même. Je vais m'expliquer. Quand l'homme, par exemple, les hommes parlent de justice et aspirent à la justice, mettons, sociale, ils regardent autour d'eux et cette justice, ils l'attendent des autres, ils l'attendent de la société. Tandis que la Bible, elle, dit, oui, il faut une justice, mais une justice dans l'homme. Et la Bible va pointer par conséquent l'homme et lui dire, la justice, c'est d'abord en toi qu'il la faut. Eh bien, pour la liberté, c'est la même chose. La Bible retourne la question vers l'homme lui-même. Ce n'est pas à la société qu'il faut s'en prendre si l'on n'a pas la liberté désirée pour être libre, mais c'est à soi-même et qu'il faut s'en prendre. Car en effet, l'homme naît sur cette terre comme esclave, il est esclave. Et si l'on voulait employer le terme de Karl Marx, nous dirions l'homme est aliéné. Il est aliéné depuis la chute. Et avant la chute, il ne l'était pas. L'homme, sortant des mains du Créateur, était libre. Il a été créé libre. Je disais hier soir que Dieu est libre et que la liberté de Dieu a créé la liberté humaine. Adam, dans le jardin d'Éden, fut-il mis en présence, comme d'aucuns le disent, et c'est à tort, fut-il mis en présence d'une alternative, c'est-à-dire d'un choix entre deux possibilités égales, un choix entre deux possibilités. Eh bien, je dis non, non, Dieu n'a pas placé Adam et Ève en présence d'un choix entre deux possibilités. Pas du tout. Il faut retirer ça de son esprit. Dieu a proposé à Adam non pas un choix entre un bien et un mal, non, il lui a proposé de ne pas s'aliéner, de ne pas perdre sa liberté, puisque je viens de dire qu'il avait été créé libre, de ne pas se lier, de rester libre. Et vous savez ce qui s'est passé. Adam pouvait rompre sa communion avec Dieu, il pouvait rompre avec sa vraie vie, il pouvait rompre avec son bonheur, c'est ce qu'il a fait, il a cédé à la tentation de rompre. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19, chapitre 30, verset 19, nous lisons ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Ainsi, choisis la vie afin que tu vives. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il y a donc là liberté. Liberté, voyez, à l'homme qui, à ce moment-là, est l'homme de la chute. Il s'agit d'Israël. C'est après la chute. Il y a liberté encore, mais la mort et la malédiction ne sont pas choses que Dieu propose. Il ne propose pas cela. C'est l'homme pourra peut-être choisir la mort et la malédiction, mais ce ne sont pas des choses que Dieu propose, pas plus qu'on ne peut proposer à quelqu'un le suicide, qui pourtant est une chose possible. C'est une chose possible, mais ce n'est pas une chose que l'on peut proposer. Depuis la chute, l'homme est un captif. Il est un captif. Et pour reprendre encore le terme cher à Karl Marx, nous dirons qu'il est un aliéné, non pas mental, je le précise, il est aliéné. Lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Vous étiez morts par vos offenses. Et ensuite, j'aimerais vous lire dans un texte, une parole du Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 4, et verset 18, Luc chapitre 4, verset 18 et 19. Il s'agit là de la prédication du Seigneur Jésus à Nazareth. Voici comment le Seigneur cite l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez donc que dans la mission du Seigneur Jésus, il y a essentiellement et tout d'abord cette délivrance, renvoyer libres les opprimés. En effet, l'homme, nous l'avons vu, est esclave du péché, il est esclave de la corruption, il est opprimé par les puissances du mal, asservi à des passions, et tout cela concourt à la destruction de sa vie. Pour libérer l'homme, pour le désaliéner par conséquent, il n'a pas fallu moins que la mort de celui qui est la parole de Dieu faite chair. Il a fallu que le Père conçoive ce dessein absolument terrifiant d'un Fils Saint qui se charge des péchés des hommes et qui en meurt. Il a fallu que le Fils lui-même accepte de se dépouiller pour entrer dans la réalité de l'esclave, comme le dit si bien Philippiens 2, 5, 8. Nous pourrions lire ce texte, Philippiens chapitre 2 et verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » La version Darby dit « s'est anéanti lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors, en somme, il se produit cette chose absolument inouïe, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui était en forme de Dieu, qui était Dieu, se dépouille de sa divinité, certains grands caractères de sa divinité, et pour quoi faire? Pour entrer dans l'humanité, pénétrer dans l'humanité par le moyen d'une naissance, en devenant semblable aux hommes, et prenant une forme de serviteur, c'est-à-dire une forme d'esclave. Le Seigneur Jésus, lui, ne sera jamais aliéné, jamais captif, parce que Satan n'a rien en lui, parce que il n'a jamais connu le péché. Bien, mais il entre dans une chair semblable à la nôtre, et par conséquent, il entre, si on peut dire, dans une personnalité humaine, mais la personnalité de captif. La personnalité de créatures qui sont aliénées, sans être lui-même aliéné. Vous voyez cette chose extraordinaire. Et nous pouvons dire maintenant que l'homme qui est né de nouveau, voyez, je vais assez vite pour ne pas m'arrêter trop sur des choses que vous connaissez, je n'en doute pas. Je ne veux pas vous faire l'affront de supposer que vous ne connaissez pas tout l'enseignement biblique concernant surtout le salut, la nouvelle naissance. Eh bien, l'homme naît de nouveau, et quand il naît de nouveau, par là, ce pouvoir que lui apporte la parole de Dieu, eh bien, il est en état de liberté. Il quitte l'état d'esclave, l'état de créature aliénée, l'état d'aliéné, pour entrer dans un état nouveau. Il entre dans un état nouveau, un état de liberté. C'est ce que nous affirme si bien le Seigneur que dans la parole que nous avons lue au début. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Réellement libre, ça a de la force, ça, n'est-ce pas, dans l'affirmation de la parole de Dieu. Vous serez réellement libre. Il y a donc là un état de liberté qui va apparaître au moment de la nouvelle naissance. Et puis, la loi de l'esprit de vie, dit Paul dans les Romains, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la puissance du péché et de la mort. Je suis donc libéré. En somme, il y a à ce moment deux situations successives, la seconde succédant à la première par l'affranchissement d'une puissance par l'autre puissance. Il y a une puissance qui va supprimer l'autre, la puissance de l'esprit de vie va supprimer, ôter de l'homme la puissance du péché et de la mort. Le résultat, nous dit l'épître aux Romains toujours, c'est que nous allons alors pouvoir marcher selon la chair, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Ainsi, par la nouvelle naissance, Jésus introduit l'homme de foi dans le règne de la liberté. Le règne de la liberté. Et mes amis, pensons au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est d'abord en grec, le même mot peut être traduit par « règne » ou « royaume ». Alors, pensons au royaume des cieux, le royaume des cieux dans sa réalité actuelle. Attention, je ne dis pas que le royaume de Dieu soit venu sur la terre et que l'Église est dans le royaume de Dieu, c'est pas ça que je veux dire. Nous sommes les prémices en vue, nous préparons le royaume de Dieu, n'est-ce pas, mettons toutes choses au point. Mais, disons ceci, c'est que le royaume des cieux, c'est le règne de l'Esprit. Le règne de l'Esprit. Et ce règne de l'Esprit s'établit maintenant dans l'Église, sur la terre, par l'Église. Le règne de l'Esprit. Et Jésus nous introduit donc dans ce règne de l'Esprit. Il nous met dans une situation telle que nous sommes libérés et que nous pouvons, par conséquent, exercer une liberté réelle. Vous serez réellement libre. Exercer une liberté vraie. Alors, cet après-midi, nous allons préciser, en terminant, puisque il ne faut pas que notre intervention dure plus d'une trentaine de minutes, afin que, comme cela vous a été dit, vous puissiez vous-même faire part de vos observations et de vos questions. Alors, nous pouvons dire que cette liberté vraie, dans laquelle nous sommes placés par la nouvelle naissance, peut être comprise de deux façons, de deux manières. Premièrement, nous voyons qu'il y a libération, affranchissement du côté de cette puissance qui, depuis la chute, agit sur l'homme et le fait captif, et le rend captif, la puissance du péché et de la mort, puissance du péché et de la mort. Alors, les contraintes extérieures et intérieures, parce que la puissance du péché, elle agit intérieurement, aussi bien qu'extérieurement, les contraintes extérieures et intérieures ont cessé d'avoir effet. Par conséquent, il y a liberté par une libération, par un affranchissement. Voilà. Déjà, comment nous pouvons comprendre cette liberté. Mais il faut la comprendre d'une seconde manière, et dans la suite de notre méditation sur le sujet de la liberté en Christ, nous verrons cela d'une façon plus développée. La deuxième façon dont nous pouvons comprendre que nous sommes entrés dans un état de liberté vraie, est celle-ci. La vie nouvelle, qui est la vie de résurrection du Seigneur Jésus. Connaissez Romains 6, là nous avons été ensevelis avec lui pour émerger ensuite en vie nouvelle, en vie de résurrection. Eh bien, la vie nouvelle, dont on a déjà parlé ici, cette vie nouvelle est une vie de résurrection et elle est accompagnée de liberté et d'amour, accompagnée de liberté. Alors là, je ne fais plus référence à la liberté obtenue par l'affranchissement de la puissance du péché, mais je dis que la vie nouvelle possède, elle, une liberté, nous apporte une liberté. Elle est génératrice de liberté. Et nous allons voir un texte à ce sujet dans 2 Corinthiens chapitre 3. et verset 17. Chapitre 3, verset 17. Oh, c'est un passage admirable que celui-là. Il y en a beaucoup, vous me direz, dans la Bible. Mais enfin, on le sait bien qu'on les trouve tous admirables. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, que c'est beau, ça. Là où est l'Esprit du Seigneur. Par conséquent, là où est la vie nouvelle, là où est la vie nouvelle, là est la liberté. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes une nouvelle création, comme on le disait ce matin à la prière, ici, ou une nouvelle créature, sans parler ici de vie nouvelle. Nous sommes engagés dans une vie nouvelle qui est génératrice de liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la vie nouvelle, la vie de résurrection, là est la liberté. La vie nouvelle reçue en Jésus-Christ est la vie telle que Dieu l'a voulu, conforme au plan créateur, qui a tout porté à la perfection. Nous retrouvons donc la vie telle que Dieu a entendu la donner à l'homme lorsqu'il a établi son dessein, son plan créateur. Et cette vie est forcément parfaite. C'est une vie parfaite, c'est une vie impérissable. Une vie impérissable. Et cette vie est par conséquent non seulement dotée de liberté, mais elle est génératrice de liberté. Parce que lorsque nous entrons dans cette vie, nous jouissons de cette vie, nous vivons cette vie nouvelle, nous éprouvons, nous ne pouvons pas manquer d'éprouver la liberté de notre être. Il y a à vivre la vie nouvelle une liberté qui apparaît et qu'il faut goûter en vivant la vie nouvelle. Eh bien, chers amis, je crois que nous sommes arrivés à l'épuisement des 30 minutes qui m'étaient accordées, et je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que j'ai été aussi simple, assez simple, pour que vous puissiez bien comprendre où nous voulons aller avec cette méditation sur la liberté en Christ, et qu'il vous sera possible à vous-même de nous faire part de vos pensées. Que le Seigneur soit béni. Amen.